Alors, le thème que je me suis proposé en accord avec Pierre Laury de traiter est, je ne peux pas parler plus fort, est un thème paradoxal dans la mesure où quiconque lit Sora Vardi aura bien de la peine à trouver trace des anges. Survoler les textes, même superficiellement, vous constaterez que le lexique de Sohravardi et aussi la plupart de ses développements ne concernent pas les anges. Ça n'est pas d'ailleurs surprenant, parce que, en règle générale, les anges n'appartiennent pas au lexique de la philosophie. Ils appartiennent très certainement aux croyances de l'islam. C'est même une des croyances essentielles que la croyance à l'existence des anges. Mais les anges peinent à trouver leur place dans les hiérarchies philosophiques. Or, depuis que Henri Corbin a commencé son travail de lecture, d'édition et d'exégèse de l'œuvre de Sohravardi, les anges ont envahi cette œuvre, pourrait-on dire. Et ils sont omniprésents. Il y a là une source d'interrogation. Je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions qui se posent, du coup, touchant le système de Sohravardi. Et je rassure immédiatement chacun, les anges sont bien là, mais ils sont là au terme d'un dévoilement ou d'une découverte, d'une exégèse, d'une interprétation qui est rendue nécessaire par la langue et par l'entreprise même qui sont celles de Shahabuddin Yahya Sohrawardi. Je ne présente pas Sohrawardi parce que il est, pourrait-on dire, la figure centrale de l'œuvre d'Henri Corbin. C'est par l'étude de Sohrawardi que Corbin a véritablement commencé son œuvre originale en matière d'islamologie, et d'une certaine manière, c'est par Sohrawardi que cette œuvre s'est parachevée en 1976 avec la parution de L'archange empourpré. Alors déjà, d'ailleurs, le titre L'archange empourpré est un exercice d'herméneutique, puisque aucun traité de Sohrawardi ne s'est jamais intitulé ainsi. Le titre, M. Corbin l'explique très bien, signifie littéralement l'intelligence rouge, et il rappelait qu'il était impossible de conserver une telle traduction en français, elle ne veut rien dire, bien sûr, mais ni même dans aucune autre langue, ça n'aurait aucune signification, et il a choisi l'archange empourpré en fonction d'un exercice herméneutique dont nous allons essayer de comprendre la pertinence qui est tout à fait réelle. Je ne vais pas consacrer les quelques instants de propos que vous m'accordez à l'exégèse de l'œuvre de Henri Corbin. J'y ferai allusion précisément à quelques moments, mais ce n'est pas le sujet que je veux traiter. Je veux essayer de comprendre, aussi bien que je pourrai, la manière dont la vision du monde de Sohrawardi a entièrement correspondu à ce que Henri Corbin appelait une angélologie, c'est-à-dire un discours qui place les anges au centre des réalités métaphysiques, de même que la théologie est le discours qui porte sur la réalité métaphysique du principe divin. Pour ce faire, il faut se tourner vers l'ouvrage qui est incontestablement l'ouvrage majeur de Sohrawardi. Cet ouvrage, Henri Corbin l'a traduit sous plusieurs titres. La sagesse orientale, c'est le titre qui finalement a été conservé dans l'édition posthume de cette traduction, mais aussi, et très souvent, plus souvent encore, la théosophie orientale. En vérité, l'ouvrage s'intitule Hekmat al-Ishraq, sagesse de l'Ishraq, sagesse du lever auroral de la lumière, voilà comment littéralement on pourrait traduire. Ce qui signifie, selon Henri Corbin lui-même d'ailleurs, mais selon tous ses lecteurs, que Sora Vardy a souhaité composer un ouvrage court, de petite taille, dans lequel il concentrerait l'ensemble des doctrines afférents à ce qu'il appelle l'Ishraq en tant que constitution d'un savoir nouveau dont il faut rappeler les traits principaux. En effet, l'Ishraq, ça n'est pas simplement le lever de la lumière, ce qui est un fait, autrement dit, la donation même de l'être et de la connaissance. L'Ishraq désigne, selon Sora Vardy, et on le repère encore chez ses commentateurs, une doctrine spécifique, homogène, qui a des caractères propres. Si l'on se fie à la manière dont Sora Vardy lui-même le présente, cette doctrine est d'une part fondée sur la contemplation directe des réalités métaphysiques, sur la contemplation de leur présence et non pas sur une connaissance simplement spéculative ou dialectique. Et d'autre part, cette doctrine a une visée, une finalité qui n'est autre que le fait de se rendre divin, c'est-à-dire de s'identifier ou de s'assimiler au principe même des lumières métaphysiques. Donc l'objectif, l'ambition de Sora Vardy est de justifier ses propres pratiques spirituelles, et Hekmat al-Ishraq, le livre de la sagesse orientale, est une sorte de manuel de pratique spirituelle. Sa taille même invite à le concevoir ainsi. C'est un ouvrage bref en deux parties. Une première partie qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, réservée à des problèmes de logique, mais qui, pourrait-on dire, fait le ménage à l'intérieur de la logique jugée défaillante des péripatéticiens, en vue de préparer à une connaissance supérieure à celle que les péripatéticiens proposent, c'est-à-dire cette connaissance par la présence, cette connaissance qui est présence immédiate du sujet connaissant à l'objet connu, connaissance présentielle, traduisait M. Corbin, qui diffère, selon notre auteur, de la connaissance par concept ou par représentation. Tel est le but de cette première partie. La seconde partie, qui est de loin, bien sûr, la plus étudiée, est une partie dite métaphysique, mais le terme est trop vague et trop vaste. En réalité, il s'agit d'un véritable livre de la Genèse. L'objectif de Sora Vardy est de présenter la Genèse de l'univers, aussi bien l'univers physique, l'univers cosmique, que l'univers de l'homme, disons le microcosme humain, de façon à permettre aux disciples qui s'informera ainsi des principaux traits de la cosmologie et de l'anthropologie, de lui permettre de procéder à son tour et par étapes à un effort, à un perfectionnement qui le conduira à l'assimilation avec les lumières supérieures et la lumière des lumières. Dans le cinquième livre de cette deuxième partie, en effet, nous lisons, et c'est là évidemment les textes les plus riches d'expérience, nous lisons des descriptions précises d'illumination des âmes, aussi bien des âmes des commençants que des âmes des moyennement avancées, où enfin sont évoquées les illuminations suprêmes des sages divinisés, comme les appelle Sora Vardy, c'est-à-dire les sages qui se sont entièrement dépouillés de la condition matérielle et qui ont perçu directement l'illumination de la lumière des lumières et de la lumière la plus haute et la plus proche de la lumière des lumières, celle du premier intellect. Voilà, en résumé, quel est le dessein, le but le plus affirmé de Sora Vardi. Je laisse de côté, du coup, les interprétations modernes qui ont pu en être données. Je pourrais y revenir brièvement lorsque j'aurai parlé des fonctions des anges. Mais il faut maintenant, avant tout, justifier ceci que j'essayais de présenter de manière allusive, qu'il n'y a pas d'ange, à proprement parler, dans cette cosmologie et dans cette anthropologie, et que pourtant, le fait d'interpréter tout cela en termes d'angélologie est à la fois exact et nécessaire. Alors, le lexique de Sora Vardi est très, très déroutant parce qu'il se substitue au lexique traditionnel de la philosophie islamique antérieure et même contemporaine, et d'une certaine manière qui lui survivra. Je crois que le peu d'originalité que chacun, en tout cas, conférera à Sora Vardi, et le maximum d'étrangeté qu'on y voit, tient à cette réforme complète du langage philosophique. En effet, Sora Vardi ne parle pas, dans Hekmat al-Ishraq, j'entends, ne parle pas directement en termes d'intelligence, d'âme, de nature ou de corps. Il donne des clés, bien sûr, pour retrouver ces notions classiques de la philosophie islamique, intelligence, âme, nature, corps. Par exemple, il dit que ce qu'il appelle un écran, barzakh, on peut aussi traduire intervalle, un écran, un intervalle, dit, c'est le corps. Ailleurs, il dit d'ailleurs, c'est la matière première. Bon. Et le mot écran peut avoir plusieurs usages. Il n'empêche que ce qui existe sous l'espèce des existants ténébreux, comme il les appelle, ou des existants obscurs, ce sont ces barzakhs, ces barazakhs, ces écrans, ces intervalles. L'univers, le monde, selon Sora Vardi, se divise en effet en deux sortes d'existants. Des existants obscurs, ténébreux, M. Corbin a multiplié les équivalents français de ces termes, il parle de nyctiphores, de substances faites de nuit et de mort, tout ceci d'ailleurs pour essayer de restituer la saveur qui est celle du vocabulaire même de Sora Vardi. Donc il y a des étangs qui, en tant que tels, sont obscurs et qui sont des écrans sur lesquels se projettent les lumières. Il ne dit même pas que l'étang se divise en deux, il utilise un terme emprunté à la littérature du Kalam je n'entre pas là dans les formes discursives qui sont mobilisées, il dit la chose, la réalité se divise en lumière et en ce qui n'est pas lumière. Et laissons pour le moment les corps, c'est-à-dire les écrans, de côté, laissons de côté la matière elle-même, les intervalles qui sont constitués par ces écrans multiples, et venons-en aux lumières. Les lumières occupent la place qu'occupaient dans le monde avicénien les intelligences et les âmes. On peut même dire que le vocabulaire de l'intellect et de l'âme, venu d'Aristote, est laissé en marge du système, dans Hekmat al-Ishraq du moins, bien sûr, au profit d'un vocabulaire qui est celui de la hiérarchie des lumières. Pour aller à l'essentiel, selon Sora Vardi, la lumière est ce qu'il y a de plus évident. Et là aussi, le système se présente sous une forme quelque peu paradoxale. Plus la lumière est pure, donc plus elle est dépouillée de toute attache avec la matière, plus elle est une et plus elle est évidente. Ceci d'ailleurs fonde la théorie de la connaissance selon laquelle la connaissance première, c'est la connaissance de soi, et la connaissance de soi est toujours connaissance immédiate, traduisant la lucidité, la transparence, la proximité à soi d'une lumière. Le rapport à soi est foncièrement le rapport d'une lumière pure à elle-même. De là que ce qui caractérise toute lumière, c'est l'immatérialité et c'est la connaissance. Un des grands commentateurs de Sohrawardi, qui sera au XVIIe siècle Mulla Sadra, et qui subvertira d'ailleurs tout le système sohrawardien en le retraduisant dans le langage traditionnel hérité de l'avicénisme, eh bien Mulla Sadra a très bien vu la manière dont Sohrawardi considérait la lumière. Il a médité ses textes et il a conclu que pour Sohrawardi, et pour lui d'ailleurs aussi bien, l'être, c'est-à-dire simplement la réalité de ce qui est, se confond avec la connaissance, et que dans la lumière, clarté, évidence, connaissance de soi, connaissance pure de ce qui est autre que soi, coïncide avec le fait même d'être. On peut donc dire que toute lumière cesse d'être, si j'ose dire, une simple entité conceptuelle utile au discours métaphysique, mais qu'elle est authentiquement une réalité effective, consciente de soi. À cet égard, ce qui est le plus conscient de soi est le principe suprême de l'univers, que Sohrawardi, empruntant une formule tout à fait traditionnelle et coranique, nomme la lumière des lumières. Cette lumière des lumières possède certains attributs, selon Sohrawardi. C'est une lumière enveloppante, c'est-à-dire c'est une lumière totale, embrassant l'ensemble du monde. C'est une lumière providente, providentielle, parce qu'elle procure la lumière à ce qui n'en avait pas avant elle. C'est une lumière transcendante, c'est une lumière suprême, c'est-à-dire suréminente, et surtout, c'est une lumière toute victorieuse, c'est-à-dire une lumière entièrement dominatrice. Lumière autarcique, unique, immatérielle, la lumière divine règne sur toute chose en tant qu'elle la subjugue, je reprends le terme à M. Corbin, qu'elle en est la domination, qu'elle exerce une domination, pardon, victoriale, je reprends le terme à M. Corbin là aussi, sur toute chose. Donc le système de l'être va être, point important, élaboré par Sohrawardi, en vue de justifier, non seulement, comme je le disais, la divinisation de soi de celui qui est en quête de la lumière, c'est-à-dire du véritable savant, mais aussi la domination absolue de Dieu sur le monde. C'est un discours que l'on peut dire consacré à la politique divine, c'est-à-dire à l'ordre du monde tel qu'il procède hiérarchiquement de la lumière des lumières. C'est un système dont la clé est donnée par Sohrawardi de la façon suivante. Toutes les substances, tous les êtres sont reliés entre eux par deux relations ou deux dimensions fondamentales, la domination et l'amour. Tout être inférieur exerce de l'amour, exprime de l'amour pour les êtres supérieurs, et tout être supérieur n'exprime aucun amour pour l'être inférieur, mais de la domination. L'amour n'est pas réciproque, la lumière des lumières n'aime personne, et Dieu n'aime pas, Dieu est aimé, plutôt Dieu s'aime soi-même, d'un amour infini, comme pour parodier Spinoza. Donc le système est hiérarchique parce qu'il est profondément bancal, non réciproque. Plus on est inférieur, moins on domine et plus on aime. Et plus on est au-dessus, moins on aime et plus on domine. Voilà, littéralement, les lois de ce système. Évidemment, les clés en étaient déjà présentes chez d'autres penseurs, mais ce n'est pas l'objet ici de faire la généalogie de ces termes. Et tous les degrés des lumières, des hiérarchies de lumières, sur lesquelles maintenant je vais venir, essayer de donner quelques éléments, expriment ce rapport domination-amour. D'abord, le premier degré émané de la lumière des lumières. C'est ce degré que Saravardi appelle la lumière la plus proche, Nolalakrab, la lumière la plus proche du principe, bien sûr. Cette lumière la plus proche est si proche du principe qu'elle ne s'en distingue que par le fait d'émaner du principe. Mais en vérité, cette lumière coïncide quasiment au principe et s'absorbe dans le principe en revenant à lui. La lumière la plus proche devient d'ailleurs le modèle même des sages divinisés. C'est à cette lumière qu'il s'agit de se conjoindre par la contemplation en vue éventuellement de connaître cette divinisation que connaît la lumière la plus proche, et ceci éternellement, puisqu'elle aspire par amour à l'union avec son principe, tandis qu'elle reçoit de son principe cette domination, toute victoriale, comme traduit M. Corbin, domination qui est en même temps, on verra, un soin, une attention constante prise au degré inférieur. Or, c'est à ce degré de la lumière la plus proche que Saravardi donne un nom qui est le nom de Brahman. Brahman est, alors lui, incontestablement, un terme lexical emprunté au vocabulaire zoroastrien. Brahman désigne la première entité archangélique du pléraume des archanges dans le système religieux zoroastrien. Et c'est cette identification de la lumière la plus proche à Brahman qu'il faut essayer de comprendre et qui aussi donne la clé de l'angélologie systématique de Saravardi. L'être lumière, le plus proche du principe, devrait être conçu, s'il y avait fidélité au système avicénien, fidélité complète, sous le terme d'intelligence ou d'intellect. Or, de façon très significative, le vocabulaire de l'intellect, qui est utilisé par ailleurs constamment par Saravardi, est évité ici. Le vocabulaire de la lumière exclut d'une certaine manière l'usage du vocabulaire de l'intellect et de l'intellection. En revanche, on voit apparaître le nom de Brahman. Ceci pour désigner le fait que la lumière la plus proche est une réalité consciente d'elle-même et consciente de son principe, et que c'est une réalité doté d'une personnalité ou d'une identité propre. Et c'est par là que l'archange Brahman fait son entrée, si j'ose dire, à la fois dans la hiérarchie angélique saravardienne et dans la philosophie islamique. Monsieur Corbin a fait un très grand usage de cette utilisation lexicale de l'archange zoroastrien Brahman. Dès le texte de sa conférence prononcée en 1945 à Téhéran et parue sous le titre « Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Saravardi », nous voyons, parmi tous les thèmes zoroastriens repérés par Corbin, apparaître non seulement Brahman, mais d'autres noms zoroastriens angéliques, termes d'angélologie, on va les retrouver, on va les nommer, Et c'est l'occasion déjà pour M. Corbyn d'assumer une position qui ne variera pas chez lui. Sans Havardi a eu pour projet essentiel la résurrection de la sagesse des anciens Perses. De fait, l'angélologie soravardienne est une synthèse et même un syncrétisme. On y retrouve bien entendu l'angélologie islamique, et en particulier dans les courts traités ou récits mystiques, le texte dont le titre français est « Le bruissement des ailes de Gabriel » en témoigne suffisamment, puisqu'on retrouve Gabriel qui est l'ange de l'espèce humaine, et qui est bien sûr la figure de l'ange donateur des formes. Mais il y a d'autres textes où on retrouve abondance de références soufies et de références spirituelles à l'angélologie islamique. Mais incontestablement, les textes les plus frappants sont ceux qui mobilisent des noms d'anges qui viennent du monde mazdéen. Alors, M. Corbyn les a relevés tous, d'ailleurs ils ne sont pas si nombreux, on va les retrouver ensuite, mais il laisse supposer que les intellects supérieurs, qui sont devenus des lumières supérieures, procédant de la lumière la plus proche, à laquelle nous allons maintenant revenir, sont des figures archangéliques. Alors, il y a là un saut herméneutique qu'il faut peut-être expliquer et éventuellement justifier. Depuis les travaux de pionniers d'Henri Corbyn, d'autres sont revenus aux œuvres de Soravardi avec un regard un peu différent, et se fiant à la lettre même de Hekmat al-Ishraq, se sont tenus au seul vocabulaire des Lumières, ce qui est littéralement exact. Ils ont eu, de facto, je pense à Hossein Ziahi, le regretté Hossein Ziahi, je pense à M. Walbridge, ils ont eu, ipso facto, de grandes difficultés à saisir un certain nombre de textes, voire même à les traduire, parce que le vocabulaire des Lumières, ou de la Lumière, présentait déjà comme tel toute une série de signes qui justifient une interprétation un peu différente de celle qu'ils avaient adoptée. En effet, à partir de la lumière la plus proche, c'est-à-dire le premier émané de l'essence divine, de la lumière des lumières, Soravardi décrit une profusion de lumières émanant les unes des autres par réflexion, par réfléchissement de leurs diverses dimensions, dimensions tournées vers le haut, dimensions tournées vers le bas, domination, amour, etc. Le monde des lumières supérieures, appelées ainsi lumières victorieuses, lumières victoriales, lumières dominatrices, procède de la lumière la plus proche. Voilà pourquoi ce monde des intelligences se transforme, aux yeux de, au moins de son interprète français, de Corbyn, en un monde de réalité archangélique primordiale. D'où le fait que dans la traduction de la sagesse orientale, vous trouvez sans cesse lumière archangélique, lumière archangélique, lumière archangélique. Le texte ne dit rien de tel. Alors, que veut dire cette interprétation des lumières en termes d'archange? Qu'est-ce qui la justifie, au point que tout le plérôme lumineux supérieur devienne un plérôme archangélique? Et pourquoi, au total, étendre au-delà de Bachmann, au-delà de la première lumière, une référence aux lumières archangéliques du zoroastrisme? Il y a là un point très délicat qu'il faut tout de même traiter de manière aussi sereine et organisée que possible, et il y a de grandes difficultés. Tout d'abord, il est clair que le vocabulaire zoroastrien, pardon, que le vocabulaire zoroastrien ne concerne pas, chez Sohrabardi, les autres lumières intelligibles de haut rang que Sohrabardi appelle des lumières victoriales ou des lumières dominatrices. Seul Bachmann porte un nom d'archange. Ce point est important. Ensuite, c'est de Bachmann, de cet archange contestable qui procède de la lumière des lumières, que l'univers physique, c'est-à-dire le ciel enveloppant l'ensemble du monde des corps, procède dans la dimension d'ombre et de ténèbres projetée par cet archange Bachmann, c'est-à-dire la dimension de non-nécessité, la dimension de potentialité qu'il possède étant émané de la lumière des lumières et n'étant pas nécessaire par soi. Ce qui d'ailleurs est un schème qui vient d'Avicenne. Donc, on peut parfaitement comprendre que l'univers physique tout entier soit l'ombre d'un ange, pour parler comme M. Corbin, et que l'univers des lumières procède, lui, de la dimension lumineuse de cet archange Bachmann. La deuxième chose que l'on peut repérer, c'est que le vocabulaire zoroastrien va reprendre toute sa place à un degré plus bas, inférieur à celui-là et auquel nous allons bientôt parvenir. Le domaine des lumières chargées de procéder à la production du monde physique inférieur. Les archanges théurges ou les anges théurges, comme les nomme Henri Corbin. Entre ces différents niveaux de réalité hiérarchique, les lumières en nombre indéfini qui procèdent de la lumière Bachmann possèdent la même nature et surtout possèdent cette connaissance de soi qui coïncide avec leur être lumineux. Il est donc évident pour Corbin que les intelligences supérieures possèdent bien une nature archangélique. Il trouve d'ailleurs des expressions arabes très précises dans le texte sohrabardien qui laissent en effet la porte ouverte à une telle interprétation. Enfin, ces lumières procédant de la lumière la plus proche ont bien une fonction d'archée, c'est-à-dire une fonction principielle de gouvernement. Le monde des lumières supérieures est bien le monde des lumières dominatrices, c'est le plérôme, l'ensemble, très complexe d'ailleurs et très multiple, de lumières dont il ne procède rien dans le monde, qui n'ont pas de fonction d'engendrement, mais qui ont une fonction à la fois liturgique, puisqu'elles entourent la lumière des lumières, et dominatrice, c'est là que se précise, s'exprime la souveraineté divine. Ces lumières forment le monde du Jabalout, qui est le monde de la souveraineté. Vient ensuite un autre étage, si je peux dire, de l'univers, où on passe de la souveraineté au gouvernement. Puis l'on passera du gouvernement à l'administration. Le gouvernement du monde, lui, vient de lumières qui émanent des lumières souveraines supérieures et qui, elles, portent des noms empruntés au lexique zoroastrien. Ce sont aussi des lumières immatérielles, ce sont les lumières qui sont les seigneur des idoles ou des icônes, des Arbab el-Asnam. Alors quand on traduit littéralement, comme font Ziyaye et Walbridge, seigneur des idoles, c'est impossible, ça ne marche pas. En vérité, enfin, c'est incompréhensible, c'est absolument Enfin, ça n'a pas une seule signification. Seigneur des idoles, surtout chez un auteur musulman, un peu étrange. En réalité, les seigneurs des asnams, ce sont des seigneurs d'images. Voilà pourquoi icône, quoique un peu précieux, convient mieux. Un sanam, c'est certes une idole, mais en vocabulaire courant en arabe, mais c'est essentiellement une représentation imagée. Et donc, notre gardons icône, si vous voulez, pour dire représentation imagée, la représentation de quoi ? En fait, le mieux serait encore de se référer à la notion d'archétype. Nous avons affaire ici aux archétypes des espèces du monde des corps, du monde physique, du monde naturel. Et les seigneurs des icônes sont des réalités lumineuses qui président à ces espèces immuables des existants mondains. Notre philosophe professe en effet une philosophie des essences immuables. Il est expressément platonicien, et c'est un aspect majeur de son œuvre que de rétablir les droits acquis par la notion d'archétype ou de forme platonicienne comme modèle immatériel et incorporel des espèces et des individus. Ces seigneurs des icônes sont bien des espèces subsistant à l'état de lumière pure, pour Sohrawardi, et nous avons donc affaire à un univers où désormais toutes les formes cohabitent sur un plan d'égalité, d'où le fait que ce soit des lumières dites latitudinales ou latérales, et ces lumières reçoivent expressément des noms d'archanges mazdéens, d'archanges zoroastriens. Et c'est évidemment en ce point que la coalescence entre le lexique zoroastrien et le lexique de Sohrawardi se fait. L'intention évidente est de conférer à ces seigneurs des icônes des identités personnelles et de leur conférer un pouvoir que Corbin appellera un pouvoir théurgique. Je veux pas m'engager sur la discussion touchant la théurgie. Il n'empêche que notre auteur se réfère expressément ici à un vocabulaire de type magique. En effet, Sohrawardi a renoncé à l'essentiel de ce qui faisait la physique aristotélicienne, c'est-à-dire la définition de la matière et de la forme présente chez Aristote puis chez Avicenne. L'idée d'un hylémorphisme a disparu du système sohrawardien. Par conséquent, aucune substance n'est composée de matière et de forme. Les grandes ressources de la physique aristotélicienne lui sont donc refusées. Et l'héroïsme de Sohrawardi, puisque si on veut parler comme son interprète majeur, ou en tout cas son endurance, a consisté à tenter de remplacer la physique péripatéticienne fondée sur l'hylémorphisme par toute autre chose qu'une physique. D'où le fait qu'il se soit tourné non seulement vers le platonisme, vers une réhabilitation des formes platoniciennes, qu'il ait supposé que ces formes platoniciennes étaient bien des êtres vivants, conscients, bref, des archanges, dont le vocabulaire persan du zoroastrisme donnait l'identité, qu'il se soit donc à la fois tourné vers Platon, ou ce qu'il pensait être Platon, et vers le monde du mazdéisme tel qu'il était connu par lui. Car j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de projet chez Sohrawardi pour faire renaître la religion mazdéenne en tant que religion mazdéenne vivant avant l'islam, mais d'emprunter aux textes qui, de son temps, circulaient dans le mazdéisme sous des manteaux divers et sous conditions de l'islam, Autrement dit, les textes qui ont été depuis publiés, par exemple, par Jean de Ménage, tous les textes postérieurs à la conquête arabe. Et ceci nous entraînerait évidemment un peu loin. Mais surtout, et c'est sur ce point qu'on peut porter vraiment attention au vocabulaire théurgique et au vocabulaire magique, ce que Sohravardi a dû constituer, c'est l'équivalent de ce que les religions, empruntant au néoplatonisme de l'Antiquité tardive, dans le paganisme tardif, avaient fait. Il faut transformer une physique, disons, rationnelle, en une physique magique. Et je dirais que la fonction essentielle de l'archange, qui est le seigneur de l'espèce, est d'expliquer, de rendre compte de la formation de ce qui est inférieur par ce qui est supérieur. Et ceci indépendamment de toute référence à la forme et à la matière. Le gouvernement des corps, qui est opéré par les lumières des seigneurs des icônes, est en effet à la fois une formation, ces lumières sont des lumières qui forment les entités individuelles du monde inférieur, et c'est également par leur exercice du gouvernement détaillé de leur existence que les corps inférieurs sont dotés à la fois de vie, de connaissance et de prolongation de l'existence dans l'être. Tous les corps reçoivent toutes leurs fonctions de la lumière qui est indépendante du corps et qui les domine. Donc le monde des formes platoniciennes est dynamisé et transformé en un ensemble de seigneurs d'espèces vivants vers lesquels les individualités retournent après leur mort et d'où ils procèdent, mais non pas comme une forme procède d'une forme, mais ils procèdent comme un objet produit par une théurgie procède de son théurge. Et l'on comprend très bien alors le mot sanam, icône ou idole. Dans la théurgie néoplatonicienne tardive, le théurge, qui n'était pas d'ailleurs nécessairement le dieu, c'était le prêtre qui, priant la divinité, opérait grâce à l'idole, c'est-à-dire grâce à la représentation sensible de la divinité, toute une série d'opérations magiques, faisait tomber la pluie, faisait faire ceci ou cela, il guérissait, il produisait des effets dans le monde sensible. Et c'est ce schème théurgique qui se retrouve effectivement chez Sohravardi. Donc la fonction, cette fois-ci gouvernementale des lumières angéliques, est une fonction consistant à donner la vie, l'existence, la santé, le bien, le bonheur éventuellement, à des êtres individuels dont les corps sont inertes. Ayant supprimé toute référence à la matière et à la forme aristotélicienne, Sohravardi s'est lui-même doté, si j'ose dire, d'un concept du corps qui est le concept de l'écran, et aucun écran n'est capable par lui-même d'aucune fonction vitale. Il faut donc qu'existe tout un ensemble de lumières angéliques qui procèdent à l'ensemble des fonctions de la vie. C'est ici que l'on rencontre les relations dérivées du lexique mazdéen les plus prégnantes. Par exemple, l'archange Shahrivar, qui est une lumière régente supérieure, pour l'appeler par son nom, ou une lumière gouvernante supérieure, opère une théurgie qui est la mise en ordre et la mise en vie, j'ai envie de dire, la vivification d'un astre, qui est l'astre solaire. Or, cet astre, à son tour, porte un nom. Un nom d'ailleurs persan, Hurraj, et cet astre qui porte un nom de divinité est présentée comme la théurgie de l'archange Shahrivar. C'est le parfait modèle de ce qui se passe pour la plupart des espèces ou des êtres supérieurs. Je n'entrerai pas dans le détail de ces espèces. Notons par exemple que déjà dans le monde élémentaire, Sohrawardi opère une dislocation à l'intérieur des quatre éléments. Trois éléments, l'air, la terre et l'eau, gardent, disons, leur statut antérieur, le statut qu'ils ont dans la doctrine péripatéticienne, alors que le feu n'est plus un élément comme les autres, et Sohrawardi discute sur ce point et réfute les doctrines les plus connues de l'univers avicénien, en l'occurrence le fait que le feu soit un élément qui appartienne au monde supérieur physique. Non, le feu, à cause de sa luminosité, doit, selon Sohrawardi, être d'une toute autre nature, et le feu va être célébré, là on a vraiment des analogies masdéennes, comme tel, parce qu'il est l'icône, l'idole, comme vous voudrez, bref, la théurgie d'un archange qui est l'archange même du feu, et ainsi de suite pour toute une série de réalités. Alors, en résumé provisoire, on voit bien que la transformation des lumières, au moins par leur nom, en archange zoroastrien, permet à Sohrawardi de produire une genèse. Je disais au début, le livre Hekmat al-Ishraq, c'est un livre de genèse. C'est un livre de genèse dont le modèle est manifestement le Timée. On ne peut pas savoir s'il a lu le Timée de Platon, il y a des références toujours au Timée, mais ce sont des références très lointaines chez nos auteurs, mais il n'empêche que le modèle, c'est le Timée. Proche ou lointain, c'est ce type-là de livre qu'il veut faire. Et le Timée de Platon est, pour Sohrawardi, qu'il le connaisse ou non, un bon modèle, parce que il nous conduit à la compréhension des rouages, pourrait-on dire, ou des séquences nécessaires au fonctionnement d'un monde en devenir à partir d'un monde immuable. Sohrawardi a valorisé évidemment le monde immuable des lumières archangéliques primordiales, mais il n'en explique pas moins le monde en devenir, c'est-à-dire le monde soumis à la corruption et à la génération, le monde inférieur enténébré par la participation à la matière, le monde des corps écrans. Et les anges ont pour mérite, j'ose dire, d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire la donation provisoire de lumière et de vie à des corps écrans qui sont substantiellement rétifs à toute vie et à toute lumière. Bref, un dualisme, ou une dualité, il n'y a pas de dualisme chez Sohrawardi, mais en tout cas une dualité des substances doit évidemment être résorbée si l'on veut construire une cosmologie décente, une cosmologie rationnelle. Et c'est à cela que servent donc les anges et les archanges. Donc on a trois niveaux, c'est à cela que je voulais conduire, trois niveaux. Un niveau de souveraineté, la lumière des lumières, et le premier archange, l'archange Brahman, la lumière la plus proche. Autour de cet archange et émanant de lui, l'expression de cette souveraineté, le monde des lumières victoriales, qui sont probablement elles aussi de nature archangélique. Au-dessous, le monde des lumières séparées, le monde des lumières immatérielles, mais qui s'occupe du gouvernement des corps, ce sont les seigneurs des icônes et l'ensemble des lumières gouvernantes ou régentes, comme on voudra, qui tiennent au fond lieu de ce que l'on appelle d'ordinaire les âmes. Donc les intelligences se sont vus substituer des lumières archangéliques supérieures, les âmes se voient substituer à elles des seigneurs des icônes et des lumières inférieures aux seigneurs des icônes, car il faut démultiplier ce monde des lumières, et il y aura donc des lumières régentes supérieures et des lumières régentes particulières, personnelles pour chaque individu de l'espèce, qui constituent au fond ce qu'était autrefois le monde des âmes. Ce monde-là est le monde du gouvernement divin, c'est le monde de la gestion rationnelle du décret de la prédestination divine. Mais c'est aussi le lieu de la donation de la vie, de l'existence et de la persistance, voire même de la donation de la conscience, car chaque espèce exprimant la théurgie d'une figure angélique qui est celle du seigneur de l'espèce possède ipso facto les propriétés de la lumière, connaissance, vie, existence et connaissance de soi. Le dernier degré est bien entendu celui de l'administration détaillée des corps. Et on voit très bien là aussi que tout est interprété en termes de théurgie et de magie, car les corps par eux-mêmes n'ayant aucune propriété de vie, c'est même par là même qu'ils se définissent comme des écrans ténébreux, tout en eux doit être non seulement régenté, mais bien administré en détail par des lumières. Et notre Saurabhardi multiplie ainsi les lumières internes à l'individu, de sorte que celui-ci ne soit d'une certaine manière plus autre chose que le théâtre où se manifeste la sage administration de ces lumières qui sont par essence séparées de la matière. Tout ce qui est matériel est soumis à l'immatériel, comme ce qui est inanimé est soumis à ce qui est animé. Le but de ce système et de ces hiérarchies angéliques, c'est bien sûr d'exprimer certaines fonctions, le but de la présentation métaphysique, veux-je dire, et d'exprimer certaines fonctions que je viens de résumer. Mais on peut dire, y a-t-il un objectif d'ensemble de ce système, très étrange si on y réfléchit? Alors c'est là que l'interprétation du système de Saurabhardi devient l'objet parfois de controverses et en tout cas de discussions scientifiques extrêmement intéressantes. Je vais essayer de tenir un propos à la fois consensuel, comme on dit aujourd'hui, et irénique. L'interprétation d'Henri Corbin est expressément une interprétation qu'on pourrait dire mystique. Il a mis au centre de sa lecture de Saurabhardi certains textes très précis de Saurabhardi où il est dit que lui-même a connu des expériences mystiques, appelons-les ainsi, qui sont d'ailleurs présentées dans le livre 5, qui sont des expériences de vision de certaines lumières. Et d'ailleurs, au passage, relevons qu'il ne se présente pas comme un maître accompli, car il ne donne comme récit de vision des lumières que des récits qui concernent les moyennement avancés. Si on regarde précisément, tous les récits qu'il fait de ses propres visions sont celles qui concernent les moyennement avancés dans la science. Donc il ne s'accorde pas à lui-même une divinisation complète. Mais sa référence philosophique fondamentale, ce sont les maîtres qui se sont divinisés, et il en donne une liste qui contient des figures de la mythologie, appelons ça ainsi, le mot est mal choisi, disons des figures de l'imaginaire iranien, dont le principal est Kaïkhosro, le roi qui a régné et qui s'absorbe dans une expérience spirituelle finale. Il y a Platon et les anciens sages, et il y a un certain nombre de figures du soufisme de son temps ou antérieures à son temps. Donc il constitue une sorte de, je ne dirais pas de panthéon, mais d'histoire imaginée de la sagesse éternelle. C'est ainsi qu'il la présente. Et il se présente comme celui qui, en son temps, réactive, fait revivre l'ensemble de ses discours et de ses pratiques de sagesse, qui sont des pratiques de sagesse conduisant à la divinisation de soi. Le prologue de Hekhmet al-Ishraq porte entièrement sur cette divinisation de soi. Et il ajoute que l'autorité principale en ce monde revient au sage divinisé. Alors certains, par exemple M. Hossein Ziaï, regretté, Ziaï, en ont déduit que la visée de ce discours sur les anges était essentiellement la constitution d'une politique ou d'une philosophie politique, et que donc son Ravardi prenait la suite de Farabi et d'Avicenne, chez qui il y a, surtout chez Farabi, mais incontestablement aussi chez Avicenne, une finalité politique de la métaphysique. Trouver quel est, ou démontrer qui est le guide prédestiné, l'homme digne de guider l'ensemble de l'humanité, bref, le calife de Dieu sur sa terre. C'est l'expression coranique, reprise d'ailleurs par son Ravardi. Ceci présente des difficultés que je ne discuterai pas, mais incontestablement, si l'on prend les choses en un sens peut-être un peu différent, notre auteur s'inscrit dans une lignée de penseurs qui ont essayé de concevoir qui était l'homme parfait. Et donc l'homme parfait est incontestablement le sage divinisé. Simplement, il se trouve que si son Ravardi a écrit l'équivalent de son Phèdre, ou peut-être de son Timée, il n'a jamais laissé la République, ni les lois. Et il y a là quand même une petite difficulté touchant cette interprétation, déjà. Mais surtout, je crois que la question est mal posée. Il ne s'agit pas de savoir si la finalité est politique ou non. Il est incontestable que, selon lui, le sage exerce une autorité absolue. Mais le sage, par excellence, c'est le sage divin. Et le sage divin est celui qui s'est élevé jusqu'au niveau de Brahman, c'est-à-dire jusqu'à l'archange première émanée. Deuxièmement, l'interprétation de politique, disons, n'exclut pas l'interprétation que je dirais mystique. Il y a eu des oppositions frontales, en particulier aux États-Unis, entre les élèves d'Henri Corbin présents là-bas et dans le monde américain, et les élèves de M. Ziaï. Tout ça prend des formes des fois un peu déplaisantes, d'autant que ça prend la forme d'une opposition entre lecture spirituelle et lecture littérale, lecture mystique ou herméneutique et lecture rationnelle. Comme vous l'avez vu, on peut penser que la théurgie est rationnelle. Enfin, le système de son Ravardi est infiniment moins rationnel que celui d'Avicenne, et d'ailleurs il l'a payé cher parce que l'avicennisme n'est nullement mort avec son Ravardi, et que son Ravardi est une sorte d'apax dans la philosophie islamique qui a eu des héritages, des héritiers, mais les héritiers se sont généralement empressés de réintroduire le système de son Ravardi dans le cours de la philosophie islamique, j'allais dire, conceptuellement plus assuré. Ce qui est fascinant chez son Ravardi, c'est ça que je veux dire, et que Corbin là avait parfaitement vu, c'est que c'est un mélange d'expérimentalisme, voire même de thématiques dont, dans l'Antiquité antérieure, à l'islam, on avait des exemples essentiellement dans des écoles comme l'épicurisme. Il y a des points communs avec Démocrite ou Épicure dans la théorie de la connaissance, par exemple. Il y a donc une véritable anarchie métaphysique créée par son Ravardi et volontairement, qui est extrêmement intéressante. Et il y a du coup une rénovation complète des problèmes de la théorie de la science, comme de la théorie de la cosmologie, comme de la théorie de la mystique. Ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait frappant. Ensuite, il y a cette idée à laquelle il faut toujours revenir, et qui est liée d'ailleurs à cet expérimentalisme spirituel, ou à cet empirisme spirituel qui est chez lui si fréquent, qu'il est persuadé que le but de toute la sagesse, de la hikma, c'est bien une expérience. D'où ceci qu'il est en effet avant tout un soufi itinérant, proposant bien sûr un système de hiérarchie archangélique, une cosmologie réglée, mais en vue de conduire le disciple vers autre chose que l'acquisition d'une doctrine et qui est selon lui une expérience. Ça, M. Corbin l'avait parfaitement vu, de sorte que je crois qu'il faut toujours revenir à cela, à la fin des fins, c'est un homme qui a essayé de s'appuyer sur le soufisme de son temps pour balayer une bonne partie du lexique philosophique antérieur, c'est-à-dire pour renoncer à ses risques et périls, je le dis, à la charpente majestueuse de l'avicénisme, mais en vue de faire retour à un expérimentalisme, à un empirisme spirituel qui est chez lui le cœur du système. Voilà.